En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre cabinet de curiosité. Comment ça va Sidonie ?
Ça va super bien. Vous imaginez si on disait aux auditeurs malvenus dans votre cabinet de curiosité.
Surtout, ne rentrez pas chez nous.
C'est ça.
Mais non, ça n'irait pas.
Mais c'était Halloween lundi dernier, on aurait pu dire ce genre de choses. Ou une sorcière aurait pu dire ça.
Un truc pas très sympathique. Oui, parce qu'au programme de ce samedi, des sorcières et des voix.
Et oui, les sorcières, vous savez, on se les représente avec des nez crochus, des verrues, un balai et un chaudron pour faire des potions plutôt magiques. Mais en fait, qu'est-ce qu'une vraie sorcière ? Pourquoi ont-elles été persécutées pendant plus de 300 ans en France ?
Et puis, on va faire un voyage au fil des voix qui rythment notre quotidien. Ah non, André Facetta, pas la Castafiore, merci. Mais qui se cache derrière la voix de la SNCF ou celle de votre répondeur téléphonique ? Comment une voix peut-elle donner envie d'acheter un produit ? Je ne suis pas sûr que ça vous ait donné envie. Qui double les plus grands acteurs internationaux ? On vous raconte tout ça dans la seconde partie de l'émission.
Mais avant ça, on enfourche nos balais.
La curiosité est un vilain défaut.
Ça existe vraiment les sorcières sympas ? Bien sûr, il y a des bonnes sorcières.
RTL.
Tu n'aurais pas plutôt un reste de soupe aux yeux de grenouille et aux limaces ?
Si votre défaut c'est la curiosité, alors vous êtes bien sur RTL. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
J'adorerais croiser ma sorcière bien-aimée.
C'est vrai, elle est mignonne.
Qui se touchait le nez comme ça pour faire ses tours.
Non,
j'ai été biberonné à ça, moi.
C'est vrai ? Ouais. Et moi aussi, figurez-vous, malgré notre grande différence d'âge. Mais je vous promets, on s'amuse de ces sorcières aujourd'hui. Ouais. Et pourtant, des milliers de femmes ont été torturées pendant des siècles en France car on les accusait de sorcellerie. On vous raconte leur histoire sur RTL avec Jean-Marie Bretagne. Vous êtes le chef du service culture histoire du magazine Ça m'intéresse qui consacre un dossier passionnant, envoûtant, si j'ose dire même, à ce sujet. Et puis tout à l'heure, on aura le plaisir de discuter avec la doyenne des sorcières de France. Elle s'appelle Hécate et elle est sorcière luciférienne depuis 35 ans. Elle fait peur, mais vous verrez, on discutera avec elle. Elle ne fait pas que marabouter.
Ah bon ?
Elle change les choses, positivement. Jean-Marie Bretagne, il vient d'où ce mot sorcière ?
Alors, son étymologie est assez mystérieuse. Il semble quand même qu'il vienne du latin sorciarius, qui signifie diseur de sort ou jeteur de sort. C'est un mot qu'on voit apparaître dans les livres vers le 11e siècle. Mais il semble plus ancien. C'est un mot même dont l'étymologie donc est un peu mystérieuse.
Mais ces sorcières, elles existent depuis l'Antiquité ?
En fait, oui. Même si le mot n'existait pas, il y a des sorcières ou des magiciennes dans l'Antiquité, dans la mythologie. Il y a un personnage comme Circé, qui est une magicienne, qui jette des sorts et qui, notamment par exemple dans l'Iliade, transforme les compagnons d'Ulysse en cochons.
Alors ça, c'est dans les légendes aussi, mais il y a les sorcières qui ont vraiment... C'est presque un métier. Ce sont des sages-femmes, des guérisseuses...
Voilà, c'est-à-dire
des
que...
Des divinatrices, des voyantes en quelque sorte.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore à ce moment-là, jusqu'au XIIIe siècle à peu près, il n'y a pas encore de connotation très péjorative. Les sorcières ou les guérisseuses ou les diseuses de bonne aventure, c'est des femmes qui ont un rapport avec le surnaturel et qui s'en servent, par exemple dans le rapport avec les plantes, pour faire des baumes ou pour jeter des sorts.
Et à partir de quand cette connotation négative, nous avez dit jusqu'au XIIIe siècle ça va à peu près, donc c'est juste après, XIVe siècle, qu'est-ce qui se passe ? Qui décide d'associer les sorcières au diable ?
Alors, en fait, pour associer les sorcières au diable, ce qui se passe, c'est que déjà, on fait venir le diable, qui était un personnage un petit peu secondaire jusqu'alors de la théologie. On n'en parlait pas beaucoup.
Ah oui.
Et puis, ce n'est pas l'invention du diable, mais disons que le diable devient une figure très importante qui incarne le mal. Et à partir de ce moment-là, on considère notamment saint Thomas d'Aquin dans son traité sur le mal, 1267 je crois, que Satan donc, incarne le mal et qu'il a des serviteurs. Et voilà que le lien est fait et que ces serviteurs ont des pouvoirs, c'est peut-être parce que le diable leur procure ses pouvoirs. Et
alors,
là, les sorcières deviennent très méchantes.
Alors les sorcières qui deviennent diaboliques, j'imagine que ça va contrarier fortement l'Église.
Ce qui se passe en fait, c'est que à partir de ce moment-là, oui, on va considérer très vite qu'il faut que les sorciers, puis on verra peut-être pourquoi, surtout les sorcières, constituent une hérésie, c'est-à-dire qu'elles doivent être combattues.
Oui.
Donc il y a un délit de sorcellerie,
voilà.
il y a une espèce de législation autour
Il y a un crime de sorcellerie,
oui,
c'est ça, qui est créé vers 1320, je crois, par un pape qui s'appelle Innocent VIII. Alors, on ne sait pas très bien ce qui se passe, mais ce qu'il y a, c'est que lui-même a affaire, avec la sorcellerie, car, semble-t-il, on ne sait pas si c'est de la paranoïa ou si ça a vraiment eu lieu, mais un évêque lui jette des sorts et lui va le faire condamner et exécuter.
Est-ce qu'on invente aussi les sorcières, ou en tout cas, est-ce qu'on les associe au diable pour faire passer les douleurs du peuple ? Parce que c'est un bouc émissaire facile, finalement.
Alors ça va venir un petit peu plus tard, c'est-à-dire que ce qui va être dit bientôt, c'est que finalement, le diable et ses serviteurs, c'est eux qui causent les maux de la terre, et notamment les maladies, les épidémies. Donc à partir de là, on peut dire que la grande peur des sorcières va naître et que là, la chasse aux sorcières va commencer.
Et puis soudain, un livre va sortir et ce livre va théoriser et poser ce danger que représentent les sorcières qui sont des femmes. Et c'est là que ça devient passionnant. Ce livre s'appelle « Le marteau des sorcières ». Qu'est-ce qu'il raconte à propos des femmes sorcières ?
Alors, ce qu'il raconte, c'est que Satan, en fait, recrute ses fidèles et que, c'est évidemment, tout ça repose sur une grande misogynie. Et il les recrute plus facilement chez les femmes, d'une part parce qu'elles sont plus bêtes et d'autre part parce qu'elles sont lubriques.
Et on les accuse de quels maux, de quels crimes, ces sorcières ?
De tas de crimes terribles. On se dit qu'elles vont dans des fêtes en forêt coucher avec le diable.
Oui, il y a de la sexualité partout. J'imagine. Oui.
Je suis sûr qu'elles mangent des enfants aussi.
Elles mangent des enfants, oui. Elles souillent les hosties.
Est-ce que la représentation qu'on a aujourd'hui de la sorcière, un peu caricaturale, qu'on voit dans les films Disney notamment, ce nez crochu, le gros grain de beauté, est-ce que ça date de cette époque ?
Oui, on la retrouve assez rapidement, notamment dans les tableaux de Bruegel. On retrouve la sorcière sur son balai, sur son fameux balai notamment.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
La musique de l'apprenti sorcier signée Paul Ducas pour lancer cette séquence. On se passionne pour les sorcières persécutées en France pendant 3 siècles et on vous explique pourquoi, tout simplement, avec cette question aussi. Qu'est-ce qu'une sorcière aujourd'hui, en 2016, on y répondra dans quelques minutes avec Ekat, sorcière luciférienne depuis 35 ans. Et puis Jean-Marie Bretagne est toujours avec nous. Je rappelle que vous êtes le chef du service culture-histoire du magazine Ça m'intéresse. Vous consacrez un dossier à cette haine des sorcières. Donc on dit 3 siècles de chasse aux sorcières. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on encourage, par exemple en France, à dénoncer ?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un processus qui est mis en œuvre dès qu'il y a des femmes qui sont suspectes. Mais au départ, il faut, pour que ces femmes soient suspectes, il faut effectivement la collaboration de la population qui dénonce, qui va se mettre à dénoncer pour des raisons les plus diverses.
Mais comment on les démasque ? On parlait de ce livre, Le marteau des sorcières, publié à la fin du 15e siècle. Il y avait quoi ? Des espèces d'astuces qui étaient proposées aux lecteurs ?
Tout à fait, exactement. C'est-à-dire qu'il y a des traits physiques, il y a des choses très très singulières comme les taches dans le blanc des yeux. Il y a des insensibilités du corps, c'est-à-dire que les grains de beauté, les verrues, c'est pour ça qu'on retombe sur la fameuse verrue, ça veut dire que le diable a touché cette femme, et donc c'est pour ça qu'il y a des traces d'insensibilité. Et puis il y a des choses aussi très étonnantes, comme des sortes de tests qu'on fait passer aux femmes. Est-ce qu'elles pleurent ? Si elles sont incapables de pleurer, c'est peut-être des sorcières.
Est-ce que si on les jette dans l'eau attachées, elles vont flotter ou pas ?
Voilà.
Pour le test ?
Voilà. Et ce qui est le plus cruel dans l'affaire, c'est que si au moins c'était inversé, mais c'est si elles flottent qu'elles sont ensorcelées. Donc les malheureuses qui coulent sont innocentes mais mortes. Et celles qui flottent se retrouvent à être torturées pour avouer.
On leur fait aussi passer le supplice de l'eau.
Alors le supplice, c'est quand les premiers indices sont dangereux. On leur fait passer un supplice absolument terrifiant qui est de leur faire boire 6 à 12 litres d'eau. Ce qui provoque en fait, qui fait éclater leurs organes. Enfin, c'est absolument monstrueux.
Qu'est-ce qui attend ces sorcières qui sont condamnées ? Elles vont au bûcher ?
Elles vont au bûcher, certaines on le verra tout à l'heure, il y en a qui sont décapitées, il y en a qui sont acquittées, mais sinon c'est le bûcher. Oui.
On parle de 3 siècles de persécution, c'est difficile de quantifier, mais combien de femmes ont été accusées comme ça de sorcellerie et ont été exécutées ?
C'est vrai que c'est des estimations, mais on parle de 75 000 procès, ce qui veut dire peut-être 200 000, c'est difficile à dire, 200 000 accusés, et on parle de 50 000 sorcières, entre guillemets, tuées.
Exécutées.
Les témoignages de ces femmes, de ces sorcières, sont terribles. Vous avez par exemple relaté dans Ça m'intéresse le témoignage d'une sage-femme allemande qui s'appelle Walpurga Hoffmann. Qu'est-ce qu'elle raconte ?
Des choses absolument terrifiantes, sans doute. Ça fait froid dans le dos parce que ça ne peut être que l'effet de la torture. Donc elle admet, ouvrez les guillemets, qu'elle s'est souvent rendue la nuit dans divers endroits avec son amant le diable en utilisant une fourche pour véhicule. Elle reconnaît avoir déterré tous les ans le cadavre d'au moins un ou deux enfants innocents. Elle les mangeait avec son amant le diable et d'autres compagnons. Elle s'est servie des petits os pour faire de la grêle. Enfin bon,
oui, on passe aux aveux sous la douleur. Voilà. Intolérable,
on peut faire avouer n'importe quoi. Donc, si j'ai bien compris, oui, allez-y.
Non, c'est juste une chose. Il y a quelque chose qui est particulièrement pervers, c'est que on torturait jusqu'à l'horreur, parce que ce qui était dit, c'est que si ces femmes ne parlaient pas, c'est parce que on les torturait pour leur bien. C'est que le diable les empêchait de parler. Donc on les torturait pour les aider à parler.
Pour les libérer.
Et pour les libérer du diable. Qui a mis fin à cette chasse aux sorcières qui a duré 3 siècles ?
C'est Louis XIV qui, par un décret, a dit qu'il n'y avait plus de sorcières.
Et tout simplement.
Pourquoi ? Mais c'est un contexte, c'est une époque. C'est-à-dire, c'est le progrès de la médecine. On n'a plus besoin déjà, par exemple, d'accuser ces sorcières de tous les maux, de la famine, des maladies qui minaient le peuple.
Voilà, c'est ça. C'est qu'il commence à y avoir des explications rationnelles à tout ça. Donc, ça ne tient plus beaucoup debout. Et puis aussi, une raison plus politique, qui est que tout ça, c'était comme des lynchages, comme de la justice populaire. Et Louis XIV, le pouvoir royal, commençait à voir ça d'un très mauvais œil.
Quand Louis XIV décide qu'il n'y a plus de sorcières, il est suivi dans d'autres pays. En France, j'imagine, c'est le roi soleil, oui. Mais dans d'autres pays d'Europe aussi
Ça vient peu à peu, mais oui, ça déclenche. De toute façon, il y a les Lumières aussi qui vont mettre fin à tout ça. Mais en Suisse, il y a encore une femme qui est condamnée en 1782, je crois.
Oui, c'est Anna Goldie, d'ailleurs. Elle va être réhabilitée.
Oui.
Qu'est-ce qu'on sait de son histoire ? Vous la racontez ?
Son histoire, elle est typique sur certains points. C'est-à-dire que les dénonciations, elles avaient souvent des motifs crapuleux. C'est-à-dire que dans son cas, en fait, il semble qu'elle ait été violée par l'un des juges et par un notable de la ville. Et comme il était juge aussi, elle l'a accusé, mais lui a dit non, c'est une sorcière. Et à partir de là, les choses se sont enclenchées.
Au total, combien de procès en 3 siècles, Jean-Marie Bretagne, pour ces...
Peut-être 75 000 en
Europe.
Il
y a un musée dans l'Est de la France qui raconte cette chasse aux sorcières, c'est à Bergheim. Qu'est-ce qu'on peut y découvrir ?
Il y a peu de choses. C'est un petit musée, mais ce qui est très touchant, c'est qu'on découvre les histoires. Il y a une quarantaine de femmes qui ont été tuées là-bas. Et en fait, ça montre comment ça touchait vraiment. Il y a une enfant de 10 ans. Il y a l'histoire d'une enfant de 10 ans qui a été accusée et tuée pour sorcellerie.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL. La curiosité est un vilain défaut. Tu es un sorcier, Harry.
Je suis un quoi ?
On est bien entre curieux.
Tendez la main droite au-dessus du balai et dites « Debout !»
Debout ! Debout !
Wow. Sidonie Bonnec.
Les sorciers ne sont pas tous gentils.
Thomas Hugues.
Mais certains sorciers et sorcières sont sympas et on en parle dans la curiosité. Nous sommes en compagnie de Jean-Marie Bretagne du magazine Ça m'intéresse qui consacre un dossier à ce sujet. Et nous avons le plaisir d'avoir au téléphone Kat. Soyez la bienvenue, vous êtes la doyenne des sorcières de France.
Merci infiniment. Oui, je suis la doyenne des sorcières de France depuis que ma consoeur Carmen, que je ne connaissais pas personnellement mais qui était tout à fait sympathique, est malheureusement décédée, paix à son âme. Et c'est donc moi qui suis la dernière aujourd'hui, je peux le dire en âge, hein, j'ai 65 ans, il n'y a pas de secret.
Et vous êtes combien de sorcières à pratiquer cette activité en France ?
Eh bien, en France, je crois, je suis même certaine que je suis la dernière. Je suis la dernière. Nous étions très peu, nous étions une vingtaine à peu près formées dans les mêmes pratiques à peu près. Et je crois bien que je reste seule.
Alors, je parle d'activité, mais est-ce que peut-être que je dois dire, sorcière, c'est quoi ? Un métier, une passion, un loisir ?
Métier, vous n'avez pas tort. Moi, je dirais que c'est loisir, peut-être pas, parce que j'en vis. Passion, certainement. Vocation, sans doute. Moi, je mettrais ça entre la profession et la vocation.
Vous voilà. En vivez, ça veut dire que ça coûte combien, tiens, par exemple, de venir vous voir ?
L'entretien préalable est de 80 euros. Il est très, très, très important, cet entretien, parce qu'il permet de définir ce que le consultant va souhaiter. Car tout n'est pas faisable. Mmh. Donc, 80 euros pour cet entretien. Et ensuite, ça dépend exclusivement du travail qu'il y a à faire.
Et Kat, qui vient vous voir et qu'est-ce qu'on vous demande, sans citer de nom, évidemment, et de cas particuliers ?
Il y a deux grands fils conducteurs. Il y a les gens qui se soucient d'amour. dont le mari est parti, l'épouse est partie, ou au contraire pour attirer quelqu'un. Et puis, il y a les gens d'affaires qui souhaitent remonter une entreprise, créer une entreprise, etc., etc. Ce sont les deux grands courants, affaires et amour. Ensuite, on peut placer peut-être les désenvoûtements, tous les phénomènes surnaturels qui peuvent survenir. Mais il y a vraiment deux grands courants.
Mais votre rôle, c'est quoi en fait ? Vous changez leur destin ? Est-ce que vous promettez
j'essaie
ça ?
J'essaie de changer le cours du destin. Je dis bien j'essaie, parce qu'on n'est jamais sûr de... Ce n'est pas une science, hein, c'est un art. Et j'essaie de dévier le cours des destins, si toutefois c'est possible, si toutefois ça n'est pas trop loufoque, passez-moi le mot.
Et Kat, vous êtes donc sorcière luciférienne, mais ça veut dire quoi, luciférienne ? Ça fait un peu peur comme mot.
Oui, ça fait peur parce que ça fait penser au diable.
Oui.
Voilà. Eh bien, il y a, vous savez, de par l'Église catholique, il y a deux courants. Il y a deux entités, il y a Dieu et il y a le diable, qui sont absolument les opposés. Le luciférien est au milieu. Le luciférien est, disons, adepte, entre guillemets, de cet ange déchu qui a voulu apporter la connaissance, un peu de connaissance aux hommes. C'est le mythe Prométhée, hein, Prométhée qui a dérobé le feu à Zeus. Et nous sommes des adeptes justement de cet ange déchu. Nous essayons de profiter de cette connaissance qu'il nous a donnée, cette connaissance et ce savoir qui nous permet d'avancer, d'être responsables de nous-mêmes, si vous voulez, et de ne pas dépendre d'un dieu quelconque, omniscient, omniprésent et omnipuissant, tout ce qu'on veut.
Mais justement, Ekat, vous faites référence à l'Église catholique. Est-ce que les catholiques sont vos ennemis ?
Ah, pas du tout, pas du tout. Et je tiens à vous dire à cet égard que beaucoup de catholiques, voire pratiquants, sont mes consultants, si certainement, mais majoritaires. Ce ne sont pas mes ennemis, non. Moi, je ne suis ennemie d'aucune religion, mais si vous voulez, je ne peux pas adhérer à, notamment aux religions du livre qui sont quand même, moi je trouve qu'elles asservissent la personne. On est obligé de croire et on n'a pas à savoir quoi en fait.
Et Kat, moi ce qui m'intéresse de savoir, vous êtes sorcière, vous aidez un homme ou une femme à retrouver peut-être, à essayer de retrouver son amour perdu, un homme d'affaires à réussir un business en cours.
Absolument.
Quel est votre rituel ? Quels sont les outils que vous utilisez ?
Ah, il y a différents outils, les bougies, l'encens, le poignard sorcier, le poignard qui va aider à appeler les entités, l'épée qui va repousser les entités, la fameuse baguette magique qui n'a rien de magique, je vous rassure. Hein. La baguette magique est simplement le prolongement en fait du bras du sorcier. Elle aura une connotation masculine ou féminine suivant qu'il y a un sorcier ou une sorcière. Donc bougie, encens, l'eau, la terre, les quatre éléments en fait.
Mais est-ce que vous ne faites pas tout simplement un peu de psychologie, quoi ? C'est-à-dire vous trouvez des gens qui sont en difficulté et vous les aidez ?
Je vous remercie de le dire, il faut avoir beaucoup d'honnêteté. Ce métier est composé de 50% de psychologie. Sans ça, c'est absolument impossible de faire quoi que ce soit.
Bon, vous ne pouvez pas m'aider à gagner à l'euro-million parce qu'au début du mois, il y avait 166 millions d'euros à gagner.
C'est pas nous.
On a joué avec tous nos potes et puis on n'a pas réussi. Donc vous ne pouvez pas nous aider.
J'aimerais beaucoup le faire, mais sachez que si j'avais les numéros de l'euro-million, peut-être bien je me servirais la première.
Merci beaucoup.
Merci.
C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite beaucoup de chance, plein de bonnes choses à tous.
Merci.
Et merci encore à vous Jean-Marie Bretagne. Je rappelle qu'il y a ce dossier passionnant sur les sorcières. Pourquoi tant de haine ? L'histoire des sorcières, c'est dans le magazine Ça m'intéresse. Et tout de suite, on donne de la voix sur RTL.
Même le week-end, la curiosité est un vilain défaut.